France Culture.
C'est moi, je suis coupable, j'ai tué ma femme. Ce sont les seuls mots que les psychiatres de Sainte-Anne ont pu tirer du philosophe Louis Althusser, hospitalisé hier soir.
Louis Althusser s'accuse du meurtre de son épouse. Le philosophe marxiste a été admis sur sa demande à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Le point de l'enquête.
Au sommaire ce soir, le crime du philosophe. En pleine crise de dépression, l'écrivain marxiste Louis Althusser étrangle sa femme.
Féminicide à l'école normale supérieure. Premier épisode, le crime par son auteur, Louis Althusser. Une histoire particulière de Christelle Le Polotec et Laure-Hélène Planchet.
Louis Althusser aurait tué sa femme. Hospitalisé depuis hier dans un établissement psychiatrique de Paris, il s'accuse en effet du meurtre de son épouse. Philosophe, marxiste et secrétaire de l'école normale supérieure, depuis la mort de sa femme, Louis Althusser vit prostré et souffre apparemment de dépression nerveuse. Son épouse serait morte dans des circonstances encore inexpliquées au domicile du couple à l'école normale supérieure.
La météo, et avant de parler de la météo, je crois qu'il faut que je vous parle d'une affaire extrêmement pénible, c'est la mort de l'épouse du philosophe Louis Althusser. Le philosophe qui souffrait d'une profonde dépression depuis plusieurs mois, s'accuse du meurtre et
le 17 novembre 1980, le meurtre d'Hélène Legossien-Rittmann par son époux, Louis Althusser, fait la une des journaux, du Monde à France Soir. Dans un premier temps, on s'intéresse aux circonstances du crime et surtout à la figure du meurtrier à qui l'on consacre de longs portraits. On dramatise beaucoup trop, la femme de Louis Althusser est décédée dans la nuit et celui-ci a été victime d'une profonde dépression. De la victime, Madame Louis, on ne dit pas grand-chose, sinon qu'elle était juive, sociologue et plus âgée que lui. On précise ailleurs qu'elle est une Israélite rescapée des camps de la mort. Il faudra plusieurs jours pour que des portraits d'elle paraissent dans la presse. Ceux qui l'ont connue décrivent une femme mince, sèche, petite, cheveux courts et fagotée à la va-vite, d'un pantalon et d'un béret. Mais son intelligence est incontestable, comme son attachement à Louis Althusser. L'amour la conduira à soigner sa présentation, porter des jupes, se maquiller, changer sa coiffure. Le journal du dimanche du 28 novembre 1980 se veut plus précis, je cite. On verra dans notre enquête qu'il s'agit d'une petite femme juive, maigre et autoritaire. Elle avait infantilisé Althusser, dira un psychiatre qui les a connus. Elle souffrait aussi de dépression, mais à un moindre degré que lui. Intelligente mais redoutable, à cause précisément de son intelligence, mais aussi de son état névrotique, dû en partie à sa déportation. On m'a rapporté ce propos terrible d'un de leurs proches, antérieur au crime. Depuis 20 ans, il aurait dû l'étrangler. Des portraits peu amènes, et pour lesquels les journalistes n'ont pas pris grand soin de vérifier leurs sources, témoignant du peu d'intérêt que l'on portait, à l'époque, aux victimes. Hélène Legossien-Rittmann n'a jamais été déportée, ni été la secrétaire de l'école normale, comme la présente pourtant Roger Jiquel dans le journal de 20h du 17 novembre 1980.
Bonsoir. L'école normale supérieure, la vénérable maison de la rue d'Ulm, en est toute bouleversée. On a du mal à croire aux informations qui se succèdent depuis ce matin. L'épouse du philosophe marxiste Louis Althusser a été découverte étranglée dans son appartement de fonction et Louis Althusser s'est accusé tout de suite de ce meurtre. Il a été conduit à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne dans un état de crise aiguë. Son épouse, âgée de 70 ans, était la secrétaire de l'école normale. La police judiciaire a ouvert une information pour homicide volontaire et c'est au cours de l'autopsie qu'on a constaté la strangulation. Le larynx avait été fracturé.
Jean-Pierre Lefebvre, vous êtes germaniste et philosophe, professeur émérite de littérature allemande à l'ENS. Vous étiez proche de Louis Althusser. Est-ce que vous vous souvenez de votre réaction lorsque vous avez appris le meurtre d'Hélène Rittmann? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment?
Bien sûr, je m'en souviens parce que j'ai été appelé au téléphone assez tôt, premièrement, et puis ensuite a commencé tout un développement de cette journée. Et du coup, je suis venu ici. J'ai tout de suite rencontré le docteur Étienne, qui m'a tout expliqué, puisque lui, il avait été le premier témoin, disons. Voilà, et ensuite, je suis resté un moment. Althusser était déjà à l'hôpital. Donc, le docteur Étienne était déjà revenu. Et donc, on était dans une deuxième phase, d'une certaine manière, de l'épisode. Et j'ai été, bien sûr, stupéfait. mais rapidement, non pas à cause de la chose même, bien sûr, mais parce que les choses se sont enchaînées. Ensuite, il y a eu de la pratique, quoi, des choses à faire assez vite, y compris dans les jours suivants, quand il s'est posé la question de se constituer en famille morale pour avoir le droit de solliciter un avocat, etc. Enfin, des détails comme ça. Puis ensuite, des discussions ici avec la direction de l'établissement. Donc, j'étais assez occupé. Et puis, je pense que j'ai un peu refoulé les choses assez tôt.
Dans les médias, l'affaire va vite virer à l'affrontement idéologique. Et d'Hélène Le Gossien-Rittmann, il ne sera plus question. Dans le journal Le Monde, on avance cette thèse. Le malade, dans cette hypothèse, peut tenter de tuer son entourage le plus proche avant de se tuer lui-même. C'est ce que les psychiatres dénomment le meurtre altruiste. À droite, le quotidien de Paris accuse l'empressement d'amis bien intentionnés pour soustraire le philosophe à la justice. Je cite « Ce n'est pas l'esprit qui se refuse à envisager un meurtre dément, un crime sans autre excuse que l'irresponsabilité. » C'est une complicité de parti, de classe, réflexe corporatif, qui pousse à nier l'idée qu'un agrégé, qu'un philosophe, qu'un être d'une race supérieure soit entré ainsi par la porte basse du crime dans le domaine vulgaire du fait divers, et a beaucoup insisté sur la plaie pour faire oublier le couteau. Il paraît que lorsqu'on ose dire que Louis Althusser a tué sa femme, on se rend coupable ou complice d'une offensive qui, de proche en proche, ébranlerait l'université, la philosophie, le marxisme et les maîtres penseurs.
La presse nationale,
Jean-Pierre Lefebvre,
s'est emparée de l'événement, c'est-à-dire immédiatement, et a immédiatement développé un discours soit dubitatif, soit carrément accusateur sur la possibilité que le traitement qu'a connu Althusser à ce moment-là, c'est-à-dire le fait d'être emmené immédiatement par le médecin, car il y avait encore ici un médecin, des élèves, et donc à 20 mètres de l'appartement d'Althusser, il y avait celui du docteur. Et en plus, ils se connaissaient très bien depuis assez longtemps. Donc, la presse a tout de suite, enfin une partie de la presse, certains journalistes, que je ne nommerai pas, avaient, je crois, de bonne foi, posé la question, est-ce qu'il n'a pas bénéficié d'une protection, disons ceci, sur le plan judiciaire.
Quelques mois plus tard, le 23 janvier 1981, Louis Althusser, qui est toujours soigné à l'hôpital Sainte-Anne, bénéficie d'un non-lieu pour le meurtre de sa femme, le juge estimant qu'il était en état de démence au moment des faits. Il faudra attendre le 14 mars 1985 pour que l'invisibilisation d'Hélène Le Gossien-Rittmann soit évoquée dans les médias. À l'occasion du succès du livre du meurtrier japonais cannibale Issei Sagawa, Claude Sarraute s'indigne dans le journal Le Monde du silence qui entoure les victimes. Elle écrit « Nous, dans les médias, dès qu'on voit un nom prestigieux mêlé à un procès juteux, Althusser, Thibaut d'Orléans, on en fait tout un plat. La victime, elle ne mérite pas trois lignes. La vedette, c'est le coupable. On tartine sur sa famille, sur son passé de pauvre petit garçon trop riche ou trop intelligent. On explique son geste. On lui trouve toutes sortes de bonnes raisons. Et comme les jurés lisent les journaux... » Ce court article, qui a provoqué la colère de Louis Althusser, l'aurait poussé, d'après ses dires, à écrire sa propre version des faits dans son autobiographie « L'avenir dure longtemps ».
Quand Althusser a écrit ce texte pour s'expliquer, etc., il m'avait dit « Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que je peux encore faire surface dans l'opinion, publier quelque chose, etc. ?» Et je lui avais dit, c'est la première fois que je le dis en public, j'avais dit, je pense que non. Je pense que tu dois d'abord faire quelque chose qui ressemble à une punition. Il faut que tu passes du temps à faire un travail, etc. Et je lui ai dit, tu devrais, comme moi, tu devrais traduire quelque chose. Tu devrais faire quelque chose de cet ordre. Manifester le fait que tu attends avant de t'expliquer, etc. Bon, c'est pas passé comme ça. Bon, quand il voulait ne pas écouter ce qu'on lui disait, même s'il avait posé la question, bon, il était dans une phase comme ça.
Les années passent, mais dans les médias, le discours porté sur le crime d'Althusser ne varie pas. Le 22 février 1989, sur Antenne 2, Jacques Chancel reçoit le philosophe catholique Jean Guiton.
Vous parliez à l'instant, Jean Guiton, de Louis Althusser. Louis Althusser a eu un drame dans sa vie, plus qu'un drame, il a tué sa femme.
Il a tué sa femme amour pour elle.
Alors donc, vous pardonnez un crime comme celui-là?
Comment vous dire, le drame de la vie.
Dites-le-moi.
Le drame de la vie d'Althusser, j'y ai été très mêlé, puisque quand Althusser avait 16 ans, je l'avais engagé dans les œuvres catholiques. Et il me disait souvent, Althusser, je souffre, parce que je suis obligé de dire, en tant que catholique, des choses auxquelles je n'adhère pas complètement. Alors donc, Althusser était catholique, mais il me disait, je souffre parce que je parle de Dieu et je ne l'aime pas. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, il a été prisonnier, et il m'a dit, maître, je suis communiste. Je pense l'inverse de ce que vous avez appris. Mais lorsque je serai défaillant, venez me voir. Et pendant 30 ou 40 ans, quand il était défaillant, j'allais le voir. Et par conséquent, je l'ai beaucoup connu. Et en particulier, j'ai beaucoup connu celle qu'il a tuée, celle qu'il a tuée par amour pour elle. Et puis le soir du jour où il avait étranglé, enfin, Hélène, je crois qu'elle s'appelait, je me suis précipité à la préfecture de police, n'est-ce pas, pour demander au ministre de l'Intérieur de ne pas le considérer comme coupable. Je suis allé le voir à Sainte-Anne, où il était interné. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour, si on peut dire, l'arracher à la justice, parce que je pensais qu'il avait tué par amour.
Vous le pensez encore? Vous le voyez en ce moment?
Je ne l'ai pas vu, mais enfin, je suis en rapport constant avec lui encore maintenant, parce qu'il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup.
Louis Althusser meurt le 22 octobre 1990. Le journal Le Monde relate les obsèques, où sont présents une centaine d'amis, de collègues ou d'anciens élèves du philosophe. Le journaliste écrit « C'était comme si toute la famille s'était réunie après le temps des séparations. Certains l'avaient quitté il y a 20 ans, dans la foulée du gauchisme. D'autres, il y a 10 ans, après le drame personnel de Louis Althusser. » Jean-Pierre Lefebvre, utiliser le terme de drame personnel pour parler du meurtre de sa femme, c'est une euphémisation qui ressemble presque à un déni.
Qui est un déni. Hein? Mais bon, psychanalyse, c'est la science du déni. Hein? Et il y a eu un déni, oui, il y a eu un déni de peut-être, je ne sais pas qui a rédigé cette notice. Hein? Mais bon, le terme, vous ne pouvez pas être dit objectivement impropre s'agissant de la façon dont cet homme avait fini de vivre, etc. Avait vécu même, hein. Il avait vécu ça, etc. Drame personnel, bon, alors ça, évidemment ça suggère énormément de choses qui elles peuvent avoir une fonction de masque.
Deux ans après sa mort, Althusser revient dans l'actualité avec la parution de L'avenir dure longtemps, un livre avec lequel il avait dit vouloir rendre sa place à Hélène, mais où il ne parle que de lui. Nous sommes en 1992, L'avenir dure longtemps rencontre un succès immédiat grâce à son intensité tragique exceptionnelle, comme en témoigne cet extrait du journal de France Inter.
5 ans après avoir tué sa femme, le philosophe Louis Althusser avait écrit le récit de son drame. C'est un document tout à fait exceptionnel qui paraît aux éditions Stock sous le titre de L'avenir dure longtemps. Althusser, un des penseurs les plus importants de son siècle, a commis un meurtre, vous vous en souvenez, le 16 novembre 1980. Ayant agi en état de démence, il sera reconnu irresponsable et il bénéficiera 3 mois plus tard d'une ordonnance de non-lieu. Alors Jérôme Garcin, j'aimerais d'abord qu'on situe un peu brièvement, je sais que c'est difficile, mais Louis Althusser, parce que c'est un monsieur pas tout à fait comme les autres et qui a modifié considérablement la pensée de tout le monde au cours de ce siècle.
De tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas des intellectuels des années 60, 70, notamment des militants communistes, des intellectuels engagés, il a été, on peut dire, la figure la plus importante du marxisme intellectuel, scientifique d'ailleurs. En France, il était professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, la fameuse École normale supérieure, où il a joué un rôle Pour essayer de faire comprendre aux auditeurs l'importance qu'il a eue, on peut dire qu'il a été à la fois élevé philosophiquement par Jean Guiton, c'est-à-dire un philosophe catholique, chrétien, et qu'il a eu parmi ses nombreux élèves Bernard-Henri Lévy. Ça montre l'étendue, le grand écart, disons, de l'influence reçue et de l'influence donnée.
Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce texte ?
Alors, si vous voulez, on savait que ce texte existait. Mais vous savez, depuis la mort, l'assassinat plutôt d'Hélène Rittmann, la femme de Louis Althusser en 1980, donc juste après il a été interné, il a bénéficié d'un non-lieu, et il s'est passé la chose qu'on connaît tous dans la presse, c'est qu'il est devenu un mystère, un fantôme, après lequel couraient les photographes, les paparazzi, pour des raisons, autant vous le dire, qui n'avaient rien ni de philosophique, ni de politique, mais de scabreux. Et c'est vrai que, n'ayant pas pu s'expliquer, et étant parfaitement lucide sur l'acte qu'il avait commis, c'est-à-dire le meurtre de sa femme, dès ce moment-là, si vous voulez, il s'est dit « il faut que je m'explique ». Il l'a fait en 85 à la suite de la lecture d'un petit billet dans Le Monde de Claude Sarraute, qui se terminait par, elle faisait allusion à différents crimes en disant, il y a des crimes où les coupables sont plus importants que les victimes. Et ça, il ne l'a pas supporté, et c'est en 85 qu'en quelques semaines, il a écrit ces 300 pages qui sont pour moi un des plus grands livres de littérature.
Alors justement, comment justifie-t-il, entre guillemets, ce meurtre ? Est-ce qu'il le justifie d'abord ?
Alors d'abord, il ne justifie pas. D'abord, la première chose, c'est que pour un aliéné, pour une folie qu'il reconnaît, dont il reconnaît être atteint, si vous voulez, il reconnaît avoir tué, ce qui est déjà énorme, si vous voulez. Il y a une très belle image au début du livre où il raconte que le seul souvenir qu'il ait du crime le dimanche matin 16 novembre 80, ça n'est pas le geste effectué, c'est simplement le souvenir visuel de ses mains massant le cou de sa femme et simplement une immense fatigue dans les avant-bras. C'est-à-dire que pour lui, le souvenir, c'est la fatigue dans les avant-bras. Et là, il a découvert que sa femme était morte.
Le remords, vous l'avez ressenti à la lecture de ce livre ?
Pas du tout.
Ah oui.
Pas du tout. Pas du tout. Je pense que... D'abord, le remords, ça, c'est très difficile à exposer. Voilà, comme un développement d'idées, un enchaînement de pensées et tout. Ça doit prendre d'autres chemins. Bon. Donc, moi, spontanément, je lui ai dit que tu devrais traduire. Je ne savais même pas quoi. Mais bon, il en était capable, évidemment. Mais après, je l'ai dit aux amis, je lui avais dit, il faut que tu payes. Voilà, il faut que tu payes. Et c'est ce que je sentais. Ça resterait accroché à ses basques, l'idée qu'il avait été protégé, etc. Quoi qu'on puisse en dire.
Dans les années 2000, l'avenir d'Hurlontemps continue d'irriguer le discours des proches ou de certains proches de Louis Althusser, qui s'expriment dans les médias pour tenter d'expliquer ou de justifier son geste. Ici, le vif du sujet diffusé en 2005 sur France Culture.
L'acte même qui va présider au meurtre est un acte de douceur et d'amour. C'est un massage.
Éric Marty.
Althusser raconte qu'il masse le corps d'Hélène, fatigué, épuisé. C'est un corps de vieille femme, tel qu'il le décrit en tout cas, ce corps d'Hélène, un corps épuisé. En tout cas, c'est dans une relation donc corporelle. Le meurtre n'est pas un acte violent qui viendrait comme cela rompre une dispute. Il s'inscrit de manière étrange dans un rapport sensuel, sensoriel et de complicité physique, oui, d'intimité physique. Et progressivement, le massage va se transformer donc en meurtre. La façon dont Althusser raconte la scène laisse entendre qu'en effet, il n'y a pas de différence au fond sensible entre la caresse et la mise à mort, entre le massage et l'étranglement. Et Althusser est si peu conscient d'avoir fait un acte de violence que dans le dernier chapitre, justement, il parle de cette hypothèse qu'au fond, une caresse peut en effet aboutir à la mort.
Comment est-ce que vous avez appris les faits, Dominique Lecourt ?
J'étais chez moi. Il faisait pas très beau. J'ai reçu un coup de téléphone d'une de ses amies. Et puis ensuite, le téléphone a résonné de tous côtés.
Vous n'avez pas été tellement surpris, en fait.
J'étais pas tellement surpris. Et j'ai pensé, comme je le pensais depuis déjà un certain temps, qu'ils avaient procédé à un double suicide. Et que... lui-même n'avait pas été au bout de l'opération. En tout cas, j'étais bien convaincu qu'Hélène était consentante. D'abord parce que, comme j'ai habité plus d'une fois avec eux, je savais qu'elle était debout de très bonne heure, bien avant l'heure à laquelle elle a été tuée. D'autre part, il était dans un état physique extrêmement délabré. Et troisièmement, elle était tout à fait vive et en forme. Elle faisait de la culture physique, elle était tout à fait en état de lui résister ou de lui échapper. Par conséquent, j'ai pensé qu'elle était consentante. D'autant que quelques conversations que j'avais eues avec elle dans les 15 jours précédents, je savais qu'elle en avait assez. De la vie. De lui et de la vie.
Il y a eu aussi un discours qui a été véhiculé par certains proches d'Althusser, des théories psychanalytiques, qui disaient qu'en fait il s'agissait d'un meurtre altruiste, que Hélène était suicidaire. Vous vous souvenez de ce moment-là? Quel regard vous aviez là-dessus?
J'ai déjà lu ça. J'ai du mal à utiliser l'adjectif altruiste dans ce contexte. Qu'il y ait existé des tentatives difficiles de rendre compte des motivations, puisque quand on dit altruiste, c'est presque des meurtres d'amour, du coup. Hein. Même si la psychanalyse a des difficultés avec tous les gestes meurtriers, il y a très rarement une explication simple, bon, ou biologique. Donc ça peut expliquer qu'il y a eu comme ça des tentatives de discours. Effectivement, j'en ai lu. J'y ai pas adhéré, mais d'un autre côté, je les ai pas non plus rejetés parce que je pense qu'une histoire pareille, bon, ça peut prendre beaucoup de temps pour qu'on y voit un peu plus clair à plusieurs. Je pense que il y a eu une culpabilité, un sentiment de culpabilité dans un univers qui estimait et qui non seulement estimait, mais pouvait reconnaître avoir aimé cet individu, aimé le meurtrier. Et quand je dis aimé, c'est au sens très large du terme, mais ça inclut évidemment l'admiration intellectuelle, et l'individu individuel, qui était un personnage extrêmement bon, aimable, en tous les sens du terme, gentil, attentif, avec des tas de gens. Ce qu'il avait écrit avait entraîné un sentiment de gratitude à son égard.
En 2011, avec l'apparition des lettres de Louis Althusser à Hélène, on pourrait penser que les choses ont changé. Mais une fois de plus, c'est la parole d'Althusser qui prime. Personne ne se questionne sur l'intérêt qu'il y aurait pu avoir de publier les réponses d'Hélène, qui sont elles aussi conservées dans le fonds Althusser de l'IMEC. Dans cette archive du masque et la plume, Hélène Le Gossien-Rittmann est à nouveau l'objet de rumeurs romanesques, mais totalement infondées, et invisibilisées, cette fois au profit de la maîtresse de Louis Althusser, Franca.
Toujours dans les souvenirs, si je comprends bien, mais plus tragique, le 16 novembre 1980, dans leur appartement de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, le philosophe marxiste Louis Althusser étrangla sa femme Hélène Rittmann. De 8 ans son aînée était juive, communiste et ancienne résistante. Althusser, l'auteur de « Pour Marx » et de « Lire le Capital », était le maître à penser de tous les jeunes philosophes qui avaient eu 20 ans en 68. Déclaré irresponsable au moment des faits, il ne fut pas jugé. Il écrivait son autobiographie qui s'appelait « L'avenir dure longtemps », qui est un très beau livre, je trouve, qui est paru chez Stock, je pense qu'il doit être en poche maintenant. Et il est mort en 1990, et Grasset publie donc aujourd'hui un document assez incroyable, très précieux, en tout cas pour moi, les lettres que pendant plus de 30 ans, Althusser écrivit à Hélène, un gros livre là de 700 pages, préfacé par Bernard-Henri Lévy, où on voit que cette femme qu'il a tuée, Althusser l'a follement aimée, mais aussi admirée, et où on mesure également la bipolarité du philosophe qui oscille sans cesse entre la dépression et l'hyperactivité qui va, comme le rappelle BHL, prendre ses ordres chez le psychiatre et non pas, comme on le prétendait à une époque, au Kremlin. C'est un livre assez incroyable qui nous vient de très loin. Je pense que, à défaut de le lire intégralement, vous l'avez au moins, j'espère, ouvert, Arnaud.
Moi, c'est une histoire qui me passionne. pas besoin d'être communiste ou marxiste-léniniste pour être passionné par le cas Althusser, puisque c'est mythique au sens où ça pose une question qui est simple, c'est est-ce que Althusser a été le plus fou des sages ou le plus sage des fous ? C'est ça la véritable question. La préface de BHL est très intéressante parce qu'elle dit beaucoup de choses à la fois sur Althusser, beaucoup de choses sur Hélène, évidemment beaucoup de choses sur BHL lui-même, vous imaginez bien.
Mais elle est très très bien.
Sur Hélène, moi je connaissais bien le personnage d'Althusser, mais pas bien celui d'Hélène. C'est très intéressant, je veux dire, c'est une figure romanesque absolument incroyable. On dit que, ça je ne crois pas que BHL le dise d'ailleurs dans sa préface, mais on raconte qu'il y a eu deux femmes qui ont été envoyées par le Comintern pour séduire des intellectuels français. Elle était l'une d'entre elles, et de toute évidence l'autre devait être Elsa Triolet. Donc elle rencontre Althusser après la guerre, lui il vient de passer 5 ans au Stalag, il a 30 ans, elle en a 40, elle a 10 ans de plus que lui, elle a fait la résistance, il y a quelque chose de louche qui s'est passé pendant la résistance, on ne sait pas quoi, là. Berchel est très honnête d'ailleurs sur cette affaire, c'est donc un personnage, elle est beaucoup plus marxiste que lui, elle est sociologue, elle va étudier les ouvriers sur les chantiers navals de la Ciotat, c'est elle qui convertit, entre guillemets, au marxisme, et elle couche avec lui, il a 30 ans, il est puceau encore. Et dès le lendemain, il va s'enfermer à Sainte-Anne. Et puis alors, il y a quelque chose avec BHL, quand même, qui est très bizarre, c'est qu'il fait silence sur un livre. Alors là, à mon avis, qu'il faut absolument lire, bien plus peut-être que les lettres à Hélène, ce sont les lettres à Franca, qui sont sorties il y a quelques années, chez Stock, justement. Et il n'y a pas un mot sur Franca, qui était la maîtresse d'Althusser.
C'était une des maîtresses.
Une des maîtresses, mais le volume, c'était quelques 800 lettres. Il est aussi gros que les lettres à Hélène. Et ce sont des lettres d'amour qui sont parmi les plus belles de la littérature française. Les lettres à Franca. C'est absolument incroyable de beauté.
Mais il y en a de très belles aussi ici.
Et je termine avec Franca parce que l'histoire de Franca, elle aussi, est incroyable. Puisque le lendemain donc de l'assassinat de sa femme, Althusser est enfermé à Sainte-Anne. Personne n'a le droit de le voir. Elle est en Italie, Franca. Elle vient à Paris. Elle se présente à Sainte-Anne. On lui dit « Non, madame, c'est pas possible. » Vous ne pouvez pas voir, c'est son amant depuis des années et des années. À ce moment-là, elle a une perforation de l'estomac et elle va mourir 2 mois plus tard sans avoir jamais revu Althusser. Vous voyez quand même le drame qu'il y a autour d'Althusser, Hélène, Franca. Alors ce qui est très bizarre, voilà, c'est que BHL ne dit rien sur Franca. Je ne comprends pas des fois comment il fonctionne, j'ai du mal à comprendre.
Plus récemment encore, en 2015, à l'occasion de la parution du dernier opus toujours issu du fonds Althusser de l'IMEC, des rêves d'angoisse sans fin, Elisabeth Roudinesco enfonce le clou dans une recension du livre dans le journal Le Monde. Je cite « L'absence de résistance d'Hélène renvoyait donc à son propre désir d'en finir et d'échapper à une fusion intenable qui les avait conduits, l'un et l'autre, sur la voie d'une sorte de passage à l'acte suicidaire. N'en déplaise aux commentateurs, psychiatres, psychanalystes et journalistes qui se croient toujours autorisés à donner de cet acte des interprétations délirantes. C'est bien l'auteur de ce meurtre insensé qui en a le mieux dévoilé la vérité. Penseur du communisme, Althusser s'était condamné, comme le dira Jacques Derrida, à vivre une existence spectrale en devenant le meurtrier de lui-même, ce dont témoigne aujourd'hui ce grand récit des rêves de toute une vie. C'était Féminicide à l'École normale supérieure. Premier épisode, le crime par son auteur, Louis Althusser. Merci à Jean-Pierre Lefebvre, archivina Sophie Enoch, documentation d'actualité Béatrice James, documentation Anne-Lise Signoret, un documentaire de Christelle Lepolotec, réalisé par Laurelaine Planchet. Dans le second épisode, 43 ans après les faits, une autre lecture du meurtre d'Hélène Legossien-Rittmann émerge enfin.